La Fabrique Politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble, bienvenue dans La Fabrique Politique, l'émission qui vous plonge dans la mécanique politique, la vraie, pas celle des plateaux télé et des petites bastons de chefs de bande, non, celle des femmes et des hommes qui se démènent chaque jour pour fabriquer notre monde commun, qui se cache derrière les noms des institutions et les titres ronflants, qui décide, qui influence et surtout, qui fait quoi. Aujourd'hui, on s'intéresse à une institution pilier de notre République, la mairie.
Dans ce petit village normand de 800 habitants, le maire a perdu sa sérénité. Son budget initial, 400 000 euros, a fondu de 10% l'an dernier, en raison de la baisse des dotations aux collectivités. Cette église, classée au monument historique, fierté de la commune, en est la première victime. Elle souffre de fuites d'eau, chutes de plâtre et vitraux cassés.
Cette année, on ne pourra pas faire ce qu'on espérait faire, et notamment la mise hors d'eau de la partie ouest, parce que c'est tout de suite pour 100 000 euros.
100 km plus loin, à Neuchâtel-en-Bray, c'est un bassin de la piscine municipale qui a été fermé par la mairie, faute de moyens pour l'entretenir.
Nous en sommes aujourd'hui à 250 000 euros de déficit annuel, donc de fonctionnement, ça devient insupportable.
Ce maire proteste donc aujourd'hui contre les nouvelles économies à prévoir. Moins 11 milliards d'euros d'aides aux collectivités entre 2015 et 2017. Il s'agit selon lui d'un mauvais calcul.
La France est le premier pays au monde à recevoir plus de 80 millions de touristes par an. Si nos villages meurent, vous croyez que les touristes étrangers viendront dans nos villages?
Ces élus appellent les habitants à les soutenir. Une pétition a été mise en ligne. Elle a déjà reçu des milliers de signatures.
Des communes, il y en a en France depuis 1000 ans. Et des mairies depuis 900 ans, c'est dire si elles sont inscrites dans le paysage et dans notre imaginaire collectif, et puis aussi dans notre vie au quotidien. Vers qui on se tourne, pour une place en crèche, pour refaire ses papiers, pour râler contre le voisinage, ou pour donner ses idées pour rendre la ville plus belle, voire pour contester ses PV, c'est la mairie, toujours la mairie. Mais sait-on vraiment qui travaille dans ces petites et ces grandes organisations municipales? Que font les élus? Que font les employés? On parle de ça tout de suite avec Thomas Royer, qui a longtemps travaillé à la ville de Grenoble et occupe aujourd'hui les fonctions de directeur général des services de la ville du Touvet. Bonjour Thomas Royer.
Bonjour Mathieu Angotti.
Merci d'être avec nous dans ce studio et d'accepter de répondre à nos questions. Alors pour commencer, on va à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les élus. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots comment sont élus les maires? D'abord comment on devient candidat et ensuite comment se passe l'élection?
Alors le maire est élu par le conseil municipal, donc le début c'est l'élection municipale qui a lieu tous les 6 ans, la prochaine fois ce sera en 2020. Il y a 2 modes de scrutin, un pour les communes de moins de 1000 habitants où on choisit en fait un homme ou une femme jusqu'à proportion de la composition du conseil municipal, donc 7 élus pour les communes de moins de 1000 habitants. Au-dessus de 1000 habitants, c'est un scrutin de liste, donc on vote pour une liste intégrale. Et là, le nombre d'élus varie entre 9 jusqu'à 69 pour les communes dites classiques. Paris, Lyon, Marseille ont un statut plus particulier qui fait que Paris a 169 élus. Pour devenir élu, ben, la logique dans les grandes communes, c'est des affinités politiques. Généralement, à partir de 5 000, 10 000 habitants, c'est des listes constituées pour parler dans l'ancien monde à gauche ou à droite. On verra en 2020 comment les choses évolueront avec le nouveau monde depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Dans les plus petites communes, c'est plutôt des intérêts qui réunissent les personnes. Une affinité par rapport à un projet culturel, par rapport à une liste de parents d'élèves qui considèrent que le sujet éducatif est assez mal traité et qui du coup se constitue pour créer une liste pour les élections municipales.
Ou un événement peut-être particulier qui a marqué la commune ou...
Ça peut aussi arriver, oui, tout à fait.
D'accord. Une fois qu'on est élu, la question qu'on peut se poser, c'est sur quoi on a prise? C'est-à-dire qu'on sent bien dans un pays comme la France qu'il y a de nombreuses institutions entre l'État, les départements, les régions, maintenant les intercommunalités, etc. Les compétences du maire, c'est possible d'y voir clair ou c'est vraiment un fouillis inextricable?
Pour moi, c'est possible d'y voir clair. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la commune, elle est très ancienne en France. Donc c'est l'échelon absolu de proximité, l'échelon numéro 1 d'action publique. Ce qui fait que les élus communaux ont une clause de compétence générale. Ils peuvent intervenir sur quasiment tous les sujets. Évidemment, en respectant le cadre législatif fixé par le Parlement. Mais les grandes compétences communales, elles sont, vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure, l'action sociale, l'attribution des places en crèche, l'aménagement de maisons de retraite éventuellement, l'aide sociale facultative, donc le premier secours apporté aux personnes en difficulté. Il y a ensuite une compétence importante qui est l'entretien et l'aménagement des écoles, plus globalement de tous les bâtiments publics, donc gymnase, bibliothèque, centre social, centre aéré, qui sont une compétence de proximité d'aménagement du territoire. Une compétence assez courante également, enfin obligatoire pour les communes et l'état civil, pour le compte de l'État. Donc la remise des papiers d'identité, l'enregistrement des naissances, des décès, des mariages. Et après, il y a des compétences qui sont davantage liées à l'aménagement, donc notamment l'urbanisme, tout ce qui relève du droit des sols, l'autorisation de construire ou d'aménager, est délivré par le maire. Plus ça va et plus certaines de ces compétences, notamment celles qui ont une vision d'aménagement du territoire, sont transférées ou conduites en lien avec les intercommunalités qui sont depuis maintenant une dizaine d'années en montée en puissance assez forte.
Donc communauté de communes, métropole, tout ça.
C'est ça, tout à fait.
Ok, et d'ailleurs, par exemple, je pense à un truc un peu trivial, mais sur la gestion des déchets, ça aussi c'est quelque chose qui bouge, qui peut être fait.
Alors, ça a bougé il y a relativement longtemps. Les communes, notamment dans les territoires un peu ruraux, avaient décidé très rapidement de créer des syndicats intercommunaux pour gérer des sujets comme les déchets ménagers, comme le gymnase pour le collège, comme l'adduction en eau ou l'assainissement, puisque c'est plus intelligent de le faire sur un territoire vaste que sur un territoire strictement communal. Donc aujourd'hui, la loi prévoit que ces sujets-là sont des compétences obligatoires pour les intercommunalités, qui font que du coup, les élus s'en sont en partie dessaisis. Comme ce sont des élus communaux qui composent les conseils communautaires, les métropoles, ils traitent les choses par ailleurs. Donc il y a malgré tout encore une forme de lien au territoire pour traiter ces sujets.
Mais dans l'absolu, avec cette histoire de compétence générale, le maire pourrait encore, ou la mairie pourrait encore intervenir sur ces sujets. Il n'y a rien qui l'interdit d'intervenir sur tel ou tel point.
Alors il y a des compétences maintenant obligatoires pour les intercommunalités, notamment sur les déchets, sur l'eau, sur les activités
économiques. Ce qui empêche les mairies d'y intervenir.
Ce qui du coup fait que les mairies ne sont plus en première ligne. Ouais. Mais comme aujourd'hui la composition des conseils communautaires laisse une place importante aux élus locaux, c'est encore malgré tout travailler de façon conjointe. Mais ces sujets-là, depuis les évolutions législatives sous le mandat de François Hollande, sont maintenant clairement intercommunales. Le choix n'existe plus en la matière.
Ok. On va revenir dans un instant sur cette question des compétences et des rôles au quotidien du maire et des élus. Juste avant, vous avez parlé tout à l'heure d'une instance importante qui est le conseil municipal. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu, dans une salle de conseil municipal, il y a qui déjà ?
Alors, il y a les conseillers municipaux, pour commencer, donc les élus, majorité et opposition. Il y a généralement la presse, la population, puisque un conseil municipal est forcément public.
Donc il y a des gradins, il y a des chaises.
Ça dépend des tailles des communes, mais il peut y avoir effectivement des gradins. Il y a forcément des chaises pour le public.
D'accord. Une réunion, la presse est toujours là.
La presse est invitée. Après, elle est plus souvent présente dans les grandes communes avec des enjeux politiques ou médiatiques importants que dans les petites. Et puis il y a des représentants des services qui sont en appui des élus.
Appui, ça veut dire qu'ils interviennent pas forcément officiellement. Alors, ils sont...
Logiquement, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Okay. Les seules personnes qui peuvent s'exprimer sont les élus. Ils font une suspension de séance pour que le maire puisse donner la parole ou à un habitant ou à un acteur extérieur, qui peut être le directeur de l'hôpital qui vient présenter son plan de développement, le directeur du musée qui présente le programme d'exposition ou un technicien pour répondre à une question un peu plus précise sur laquelle le maire n'a pas forcément immédiatement la réponse.
Et c'est une fois par mois ?
Alors la loi se prévoit au moins une fois par trimestre. D'accord. Donc c'est au moins 4 fois par an, mais ça peut être une fois par mois. Généralement, il n'y en a pas l'été. Donc là où tout va, où je travaille, il y en a entre 8 et 10 par an. Ça dépend des années, des sujets ou des urgences auxquelles on est parfois confronté pour juger, pour prendre des décisions. À Grenoble, c'est un par mois.
Et alors, qui fait quoi là-dedans ? C'est-à-dire que on déroule un ordre du jour. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ordre du jour ? Quels sont... les étapes à franchir obligatoirement dans un conseil municipal, et finalement comment interviennent les uns et les autres là-dessus.
Alors, qui fait quoi ? Le maire, il a une situation un peu particulière qui fait que dans une commune, il est à la fois le président de la République, puisqu'il est le responsable de l'exécutif, de l'organisation du travail des services, et aussi le président de l'Assemblée nationale, puisque c'est lui qui organise les débats au sein du conseil municipal.
C'est-à-dire le pouvoir législatif et exécutif concentré entre les mêmes mains.
C'est ça. Okay. Alors avec, évidemment, le pouvoir du préfet pour vérifier que les délibérations prises sont conformes aux dispositions législatives, avec des compétences, on l'a évoqué, qui sont exercées conjointement avec l'intercommunalité, parfois les départements. Un conseil municipal, c'est l'examen de délibération. Donc, ce sont les actes officiels de la collectivité par lesquels le maire ensuite est autorisé potentiellement à embaucher un agent, à déposer un permis de construire pour un projet communal, à déposer un dossier de subvention, etc., ouais. etc.
Ça veut dire que pour embaucher, pardon, je vous interromps, mais pour embaucher, ça va jusque-là. Pour embaucher un agent, il faut que le conseil municipal ait validé une délibération.
Pour embaucher un agent, il faut que le poste existe dans les effectifs de la commune. Ouais. Pour créer un poste, il faut une délibération du conseil municipal.
Donc il y a beaucoup de choses qui passent en conseil municipal.
Oui.
D'accord, la plupart.
Des choses relativement formelles, mais qui permettent ensuite à la collectivité d'avancer et de travailler.
Donc ça veut dire, j'imagine qu'il y a un peu deux types de délibérations, celles qui passent comme ça un peu mécaniquement où personne ne s'arrête.
Tout à fait.
Et puis tout à coup, il y a des débats qui sortent avec, j'imagine à ce moment-là, le rôle de l'opposition d'essayer de faire valoir une voix discordante sur un projet ou un autre.
C'est ça, tout à fait.
Et là, ça peut durer
Ça dépend encore une fois de la tête de la commune, du talent des uns et des autres, du travail préparatoire qui a pu être fait pour harmoniser les points de vue. Même dans des communes où les situations sont très conflictuelles entre la majorité et l'opposition, on peut considérer que 80% des délibérations sont votées à l'unanimité. C'est la gestion courante de la collectivité. Quand il faut refaire une route, tout le monde est d'accord pour dire que la route, il faut la refaire. On peut avoir un désaccord sur la priorité accordée à tel ou tel projet. Et après, les sujets plus emblématiques, plus compliqués, ceux-là, effectivement, ceux qui provoquent le plus de débats, qui font que le conseil municipal, parfois, dure très longtemps, sont en fait relativement rares.
D'accord.
Il faut fixer un tarif, par exemple, pour emprunter des livres à la bibliothèque.
Ouais.
Ce n'est pas un sujet qui, en soi, pose problème. Ça pose problème quand le maire décide d'augmenter de 25% l'ensemble des tarifs communaux ou quand il y a la volonté de créer un tarif social et que quelqu'un, par conviction, souhaite s'y opposer.
Ça veut dire que, effectivement, vous dites que ça peut durer longtemps. Il n'y a pas de règle. On ne dit pas vous avez le droit à 3 minutes de temps de parole et puis basta. Ça peut durer à l'infini, les temps de parole ?
Alors, ça pourrait durer à l'infini. Il y a généralement un modus vivendi entre majorité et opposition par ce qu'on appelle le règlement intérieur qui définit les modalités d'organisation du débat où le maire qui a la police de l'Assemblée peut décider que le temps de parole a été excessivement long. Mais un conseiller municipal pourrait attaquer au tribunal administratif un maire qui l'aurait empêché de s'exprimer pendant un débat en lui coupant la parole de façon excessive.
D'accord, donc c'est quand même assez souple.
C'est très souple.
D'accord. Alors revenons aux élus, donc j'imagine que le maire avec toutes ses compétences, il ne fait pas tout seul, il a des élus de la majorité avec lui, alors on a bien vu un nombre différent selon la taille des communes. D'abord, comment ils se répartissent les rôles ? Et puis ensuite, une fois qu'ils ont leur petit domaine de compétences, comment ça se passe ? Ils ont le droit de décider tout seuls ? Il faut toujours qu'ils en réfèrent au maire ? Comment ça se passe ?
Alors le principe est celui de la délégation. Donc la délégation fait qu'in fine, le maire donne une délégation à un adjoint, à qui il peut évidemment la retirer. La responsabilité administrative, pénale, judiciaire est celle du maire. Pas celle des adjoints. Donc il y a une relation de confiance qui doit exister entre un maire et ses adjoints. C'est ce qui fait que régulièrement, on entend ou on lit que dans telle ou telle commune, un maire a retiré une délégation à un adjoint. C'est que la confiance n'est plus là. Donc généralement, au début du mandat, en fonction des parcours des uns ou des autres, leurs affinités, de leurs compétences, se répartissent en effet entre le maire et un certain nombre de personnes. Donc ça dépend du taille de la taille de la commune. Où je travaille, il y a 5 adjoints, à Grenoble il y en a environ une vingtaine, des compétences donc sur les travaux, sur l'urbanisme, sur la lecture publique, sur la petite enfance, sur l'action sociale, sur les finances ou les ressources humaines, qui permettent au maire de s'appuyer sur l'expertise de ses élus, et puis aussi de faire en sorte que l'équipe vive. Un conseil municipal ou une majorité où le maire ferait tout et où les élus ne seraient là que pour venir voter en conseil municipal, ce serait intéressant pour personne, et très vite sans doute ça rendrait les relations interpersonnelles assez désagréable et très détérioré.
Et alors comment ils font tous ces élus on imagine que pareil un peu comme vous disiez tout à l'heure sur 80% des sujets ça va un peu tout seul, mais j'imagine qu'il y a des moments où ils sont pas forcément d'accord, où il y a des intérêts qui divergent, qui se croisent entre l'élu qui est en charge des finances et qu'il faut faire attention aux finances et puis l'autre qui a des projets un peu dépensiers entre guillemets. Chacun ne peut pas décider tout seul, donc il y a quelque chose qui doit se passer au niveau de la mise en cohérence de tout ça.
Tout à fait. C'est des formes d'arbitrage à construire. Ça peut se faire par le maire, Ça peut se faire par les services qui réunissent les élus et qui accompagnent la réflexion des élus pour aboutir à une position commune. Et puis dans les communes un peu plus importantes, il y a un service spécifique, le cabinet du maire et des élus, dont la mission est principalement celle-là. C'est notamment le cas dans des communes où les majorités municipales sont composées de personnes dont les parcours sont différents ou de plusieurs partis politiques, qui ont du coup pas forcément les mêmes aspirations, les mêmes ambitions, les mêmes priorités.
On reparlera effectivement de cette question du cabinet tout à l'heure, qui est effectivement une instance assez mystérieuse, qui n'est pas présente dans toutes les communes, mais dans les plus importantes.
Si vous permettez, du coup, il y a un rôle important pour les services dans cette dimension de préparation de décision, qui permettent de rapprocher les points de vue, du coup, aussi.
Ah oui.
Le parti pris de départ d'un élu qui pourrait être dépensier avec un projet que l'élu finance trouverait exorbitant. Travailler intelligemment par les services, ça permet de calmer les inquiétudes des uns ou l'exubérance et l'enthousiasme des autres.
Eh bien, ça nous fait une transition toute faite pour la deuxième partie qui arrivera dans un instant sur la question des services administratifs d'une ville. Merci Thomas Royer. On fait tout de suite une pause musicale avec Sonic Youth et on se retrouve juste après dans la fabrique politique. On écoute Turquoise Boy.
Run.
Vous êtes sur Radio Campus, c'est la Fabrique Politique. Aujourd'hui, on parle du fonctionnement des mairies en France avec Thomas Royer, directeur général des services de la ville du Touvet. Alors Thomas, on a bien compris que les élus n'étaient pas les seuls à faire tourner les mairies, qu'ils s'appuyaient sur des services et sur des agents de la fonction publique territoriale. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur cette fonction publique territoriale ? Je vous avoue, j'ai regardé sur Wikipédia et j'ai vu qu'elle avait été instaurée en 1984. Enfin, j'imagine qu'elle existait d'une certaine manière avant, mais que ces règles avaient été fixées donc il y a pratiquement 35 ans. Comment ça marche ? Comment on devient fonctionnaire dans une mairie ?
En passant un concours. La règle de base de la fonction publique, qu'elle soit d'État, hospitalière ou territoriale, et en effet, les lois de 84 font suite à celle de 83 sur la décentralisation. La règle de base, c'est de passer le concours. Donc il y a aujourd'hui trois catégories d'emplois, catégorie A, catégorie B, catégorie C. Catégorie A étant les agents d'encadrement, catégorie C, les agents d'exécution. Il y a une petite... opportunité qui peut exister pour les agents de catégorie C d'être nommé sur décision du maire, du président du département, du président de la région, avec des agents qui, pendant 6 mois, un an et demi, apprennent leur métier, que ce soit des agents techniques, de voirie ou des agents.
Nommé, ça veut dire sans passer le concours.
Sans passer le concours.
D'accord. Voilà, tous les autres, pour être fonctionnaire, concours.
La règle de base est le concours. Ce qui n'empêche pas que dans les collectivités, il y a aussi des contractuels, des gens qui ont un contrat de travail pour un an, pour 3 ans, ou pour une mission temporaire. Imaginons une collectivité un peu importante qui se lance dans un projet de construction d'une bibliothèque et qui a besoin de renforcer son service de bâtiment. Elle pourrait parfaitement embaucher un ingénieur spécialiste de l'aménagement intérieur d'équipements culturels pour une durée de 6 mois, un an et demi.
Et alors, on sait aujourd'hui à peu près les proportions, c'est-à-dire que plus ça va, plus il y a de contractuels et moins de fonctionnaires, ou c'est stable, ou c'est l'inverse, il y a une tendance, il y a quelque chose qui se passe entre ces histoires de fonctionnaires et de contractuels ?
Ça dépend des catégories d'emploi. Catégorie B, catégorie C, l'immense majorité des agents sont fonctionnaires territoriaux, donc agents de la fonction publique.
Et ça ne bouge pas spécialement.
Ça bouge pas vraiment. Les agents qui rentrent en contractuel, généralement, finissent par être mis au stage, donc c'est la période qui permet de devenir ensuite fonctionnaire territorial. En catégorie A, sur les postes d'encadrement, objectivement, depuis une vingtaine d'années, le nombre de contractuels augmente, avec des gens sur des profils un peu différents.
Et de moins en moins de fonctionnaires, du coup.
Du coup, un peu moins de fonctionnaires, ouais, voilà.
Mais ça reste quand même
la règle de base. Il y a eu des dispositions à la fin des années 2000, début des années 2010, qui visaient à stabiliser des agents qui étaient en contrat depuis très longtemps, qui du coup ont été intégrés dans la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, les préfectures sont attentives, puisque les actes pris par les collectivités pour embaucher leurs agents sont soumis au contrôle de légalité, donc au contrôle de l'État, contrôle a posteriori. Elles sont quand même attentives au fait qu'à diplôme équivalent, à parcours équivalent, à compétences équivalentes, un titulaire du concours soit prioritaire, soit un contractuel.
D'accord. Et alors, quand on est fonctionnaire, alors quand on est contractuel, j'imagine, on se présente, il y a des offres d'emploi et puis on est embauché, on est recruté ou pas. Mais quand on est fonctionnaire, on choisit son affectation finalement une fois qu'on a le concours, on peut aller où on veut.
Comment on peut aller où on veut. On postule sur des postes. Donc après,
c'est pareil, il y a des entretiens
d'embauche. Et alors que c'est le DRH, ça peut être les élus. Entre 3, 4, 5, 6 personnes choisies après avoir reçu beaucoup plus de candidatures généralement, retiennent un candidat. Donc effectivement, on peut candidater à la fois pour travailler sur les finances publiques, pour travailler dans une bibliothèque, pour travailler en aménagement urbain, en urbanisme.
Ah, les concours ne sont pas précis par rapport au domaine d'activité derrière, c'est-à-dire qu'on peut
forcément
passer un concours et puis ensuite,
on peut être alors attaché territorial, par exemple, c'est un concours de catégorie A, c'est les agents qui d'encadrement dans les communes principalement. On peut être au service scolaire comme au service culturel, au service des sports ou à l'aménagement urbain, avec des compétences qui sont des compétences d'abord juridiques potentiellement et qu'on élargit ensuite en se formant sur des sujets qu'on maîtrise un peu moins au départ.
D'accord. Et admettons, je pense à cette hypothèse, j'imagine qu'elle est relativement rare. On a réussi les concours, et puis on postule, et puis on trouve pas de poste. Qu'est-ce qui se passe ?
On perd le bénéfice du concours au bout de 3 ans.
Et on a 3 ans pour trouver ce poste.
C'est ça, un fonctionnaire qui est titulaire d'un concours a 3 ans pour trouver un poste. C'est un peu pour les jeunes attachés territoriaux, ceux qui réussissent le concours juste après la sortie de l'école, de l'université. C'est un peu la croix et la bannière, c'est parce que forcément, les collectivités cherchent des gens qui ont un peu d'expérience professionnelle et privilégient parfois des contractuels dont ils savent qu'ils seront immédiatement opérationnels. Et puis comme souvent, il m'est arrivé de recruter, c'est toujours un pari. Et quand on se loupe sur un recrutement, on se dit qu'on aurait préféré prendre un contractuel, plutôt qu'avoir quelqu'un dans la collectivité avec qui ça ne matche pas ou qui n'est pas au niveau des ambitions attendues, mais qui est là à vie potentiellement.
Ah oui,
et donc il faut ensuite qu'on réussisse à retrouver une forme de reclassement, de formation professionnelle qui permette de régler les difficultés qu'on peut rencontrer.
Quand vous dites qu'ils sont là à vie, ça veut dire qu'une fois qu'on est attaché à une collectivité, on est attaché définitivement à cette collectivité.
On peut être attaché définitivement à cette collectivité. Alors après, on n'est pas attaché forcément à son métier ou à sa fonction. On est titulaire de son grade. Et donc, on ne peut pas être, sauf faute grave, être, entre guillemets, licencié de la fonction publique territoriale.
J'imagine que ça arrive quand même de changer de collectivité. Ça, c'est plutôt du coup de la volonté du fonctionnaire de dire tiens, je vais aller voir ailleurs. Et à ce moment-là, on est transféré d'une certaine
façon. Il peut être encouragé par sa hiérarchie quand ça ne se passe pas très bien, en disant il serait mieux que vous alliez voir ailleurs, mais on ne peut pas le forcer. Après, oui, c'est des démarches qui sont plutôt des démarches volontaires. On est en la matière dans l'évolution du monde depuis une vingtaine, une trentaine d'années avec des gens qui, dans une même vie, font plusieurs métiers ou ont plusieurs employeurs. Mmh. Voilà, on a tous en tête ces histoires. Il y a très longtemps, on pouvait faire 40 ans dans la même boîte. Ouais. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus vrai non plus vraiment dans les collectivités. C'est intéressant, dans tous les cas, de se remettre un petit peu en danger, d'aller apprendre d'autres compétences, une autre organisation de travail. Rester trop longtemps, quelque part, c'est prendre le risque de s'enquister.
Et on peut aussi faire des détours en dehors de la fonction publique et revenir, c'est ça, être en détachement
ou en disponibilité, voilà, qui permettent de gagner le bénéfice du concours. Et de demander à pouvoir être réintégré à l'issue d'une période où on peut prendre pour des raisons personnelles, pour faire un voyage, pour s'occuper de ses enfants, ou pour aller vivre une autre expérience dans le privé.
D'accord.
Ça peut être du suivi de conjoint, ça peut être une expérience. Moi, j'ai souvenir d'un agent à la ville de Grenoble. Son chef de service était par ailleurs président de Médecins du Monde. Il a demandé une dispo pendant 2 ans pour partir faire médecin du monde à l'autre bout du monde.
Et après, il a pu revenir. Dans sa collectivité.
Dans sa collectivité. Il se trouve qu'il n'a pas eu un poste aussi vite qu'il le souhaitait disponible de médecin. Mais au final, il a retrouvé un poste de médecin.
D'accord. Alors, justement, dans une mairie, alors j'imagine que ça dépend bien sûr des tailles, mais si on peut dire à quoi ressemble l'organisation des services, à quoi ressemble un organigramme, quelles sont un peu les grandes familles de métiers qu'on trouve dans une mairie, ça s'organise comment ?
Alors, il y a aujourd'hui 10 filières dans la fonction publique territoriale, donc administrative, technique, sportive, culturelle, socio-médicale, médico-sociale plutôt, qui répartissent les 250 métiers qui existent dans la FPT.
Ah, il y a toute une norme en fait avec 250 métiers classifiés qui disent bien.
Dans chacune des filières. Donc, et après, l'organisation en tant que telle, donc ça, c'est une forme de précision des compétences et des métiers des uns et des autres. Ça n'empêche pas parfois d'être sur plusieurs métiers. Dans les petites communes, les agents sont polyvalents. Ils peuvent faire à la fois de l'état civil, de l'élection, des marchés publics, de l'urbanisme.
Mais
ils sont sur 5 ou 6 métiers différents. D'accord. Mais ça correspond à des métiers spécifiques.
Okay.
Qui sont, alors il y a ce qu'on appelle le Centre national de la fonction publique territoriale qui classifie ces filières et ces métiers. Après, pour prendre une question sur l'organisation, elle est relativement hiérarchisée. Ça n'empêche pas le travail en transversalité, le mode projet ou travail en équipe, mais l'organisation en partant...
C'est classique dans notre esprit. C'est
assez française, si je peux me permettre de le dire comme
militaire,
ça.
Quoi.
Parfois aussi un peu. Donc en gros, les services commencent en dessous du maire par un directeur général des services.
Okay.
Dans les plus grosses communes, il y a en dessous des directeurs généraux adjoints. Donc ça, je connais bien, c'est Grenoble, et puis ça parle du coup, puisqu'on est sur le territoire de l'agglomération grenobloise, il y a 4, 5, 6 DGA, des DGA ressources, finances, ressources humaines, et déjà plus thématiques sur la politique sociale, l'aménagement urbain, l'émancipation, donc la culture, le sport, l'éducation qui sont ensemble. Et après, chacun de ces déjà, en dessous de lui, des directeurs et des chefs de service. Si j'essaie de prendre un exemple, on peut évoquer la direction des affaires culturelles de la ville de Grenoble. Grenoble a la chance d'avoir un musée, beaucoup de bibliothèques, un muséum, et à côté des politiques d'inscription dans le territoire sur l'art vivant, par exemple. Mm-hmm. Le directeur
de la
culture...
Tout ça, ça fait partie d'une même direction.
Voilà, le directeur de la culture, il a pour mission de coordonner l'action du musée, des bibliothèques, du muséum, du spectacle vivant, et de regarder comment potentiellement ces agents de bibliothèque travaillent avec les agents de l'éducation nationale ou avec les agents dans les écoles pour offrir aux enfants scolarisés à Grenoble une offre culturelle dans l'école. Ou pour le directeur de musée, de regarder comment il fait des expositions déconcentrées dans différents quartiers, dans différents lieux, en lien là aussi avec le directeur des équipements. Donc c'est... voilà. Quand on est dans les communes plus un peu de taille relativement importante, au-dessus de 30 à 40 000 habitants, on a souvent effectivement ce duo directeur-chef de service qui n'existe pas dans les communes plus petites où le directeur il est plus en proximité, on va dire, des agents.
Alors, si on se penche maintenant sur votre rôle à vous, c'est vrai que c'est un rôle assez mystérieux, celui de directeur général des services. C'est-à-dire que paradoxalement, ce rôle dans chacune des mairies de France est central. Et puis, globalement, très peu exposé. C'est-à-dire que c'est pas le directeur général ou la directrice générale des services, c'est pas quelqu'un qu'on voit dans les médias, c'est pas quelqu'un qu'on croise au coin de la rue qui interagit beaucoup avec les citoyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rôle, et notamment dans ses interactions avec les élus?
Alors, on peut croiser le DGS dans la rue, il fait aussi ses courses, il amène aussi ses enfants à l'école ou à la crèche. Dans les petites communes, il est forcément plus identifié parce qu'il est aussi plus présent sur le terrain que dans une grande collectivité où effectivement il a une charge de travail beaucoup plus importante qu'on peut l'avoir dans une petite collectivité. Si j'essayais de définir en un mot le poste de DGS, c'est un rôle d'ensemblier en fait. Il est à la fois le premier interlocuteur des élus, celui auquel ils passent entre guillemets leurs consignes, leurs commandes ou leurs attentes, celui qui doit élaborer avec ses collaborateurs les politiques qui sont demandées par les élus, et puis là, de l'autre côté, un rôle d'écoute et de gestion de la remontée d'informations par les services pour faire retour aux élus sur ce qui marche moins bien, sur les difficultés qui peuvent être rencontrées, sur les décisions à prendre pour les difficultés auxquelles les agents sont confrontés. Et après, il y a une autre dimension qui est relativement importante, c'est qu'il est, ils sont ceux qui doivent apporter une forme de garantie au maire, notamment sur le plan juridique, des décisions qui sont prises. Voilà, il faut sécuriser les actes et puis sécuriser la prospective financière de la collectivité. Ouais. Donc il y a cette dimension ressources sur le plan juridique, sur les marchés publics, sur les délibérations, sur les contrats d'assurance. Voilà.
Mais il y a ce qu'on n'avait pas dans le mur d'un point de vue financier juridique.
Imaginons une collectivité où le DGS se plante sur un contrat d'assurance, il y a un bâtiment qui prend feu, ça peut arriver. Si le contrat d'assurance il est bidon, le bâtiment ne sera pas remboursé. Plus grave, un enfant qui se blesse sur un terrain de sport, si le contrat d'assurance il est bidon, le maire est responsable. Voilà, ces dimensions-là, évidemment, le maire il n'est pas spécialiste de contrat d'assurance, donc il faut qu'on lui offre la garantie de dire OK.
C'est le DGS qui a
ce rôle d'assurer la sécurisation juridique de tous les actes de la collectivité. Donc il est à la fois collaborateur des élus, responsable des agents, et puis il a quelques missions sur lesquelles il est en responsabilité première, notamment dans la dimension ressources.
Quelques projets. Et finalement, si vous deviez décrire une journée type un peu, vous arrivez le matin à la mairie, et comment ça se passe
Ça se passe bien.
Vous êtes dans votre bureau, vous êtes dans le bureau d'autres, vous êtes toute la journée en réunion, vous êtes plutôt dehors, vous êtes plutôt dedans.
Alors encore une fois, ça dépend beaucoup des collectivités. Le DG dans une très grande ville, plus de 50 000 habitants, il passe sa journée en réunion avec des comptes rendus par ses collaborateurs, les chefs de service, sur des revues de projet, entre guillemets. Il accompagne le maire sur des visites protocolaires, protocolaires ou non, de temps de travail chez le préfet, par exemple, le maire qui a son DGS généralement. Donc c'est beaucoup de temps de réunion. Dans les plus petites collectivités, on a moins de services ressources. Moi, un marché public, c'est moi qui le rédige. J'ai pas de service marché, par exemple. Donc quand il y a un marché public à rédiger pour la fourniture d'électricité, j'y connais pas grand-chose ou pas du tout. Alors bon, maintenant, c'est mon deuxième, donc j'y vois plus clair, mais c'est du temps de travail, de recherche d'informations, d'échange avec des collègues dans d'autres collectivités pour trouver des éléments d'information, pour avancer sur des sujets comme ceux-là. L'élaboration du budget, c'est pareil. C'est, dans une petite commune, c'est le DG avec un agent comptable qui l'alimente. C'est une grosse collectivité, le DG, il voit les grands arbitrages, il rentre pas dans le détail.
Donc, j'en ai
type, il n'y en a pas vraiment. Ouais. Il y a des temps qui sont prévus à l'avance, de réunions de service, de réponses aux courriers, aux attentes des usagers, des élus qui arrivent, c'était pas prévu, donc il y a un élu qui s'installe et puis qui a un problème ou qui a envie de discuter, donc ça prend un quart d'heure, une demi-heure, une heure et demie. Il y a un habitant qui est en bas à l'accueil et qui attend une réponse immédiate. C'est beaucoup d'imprévus en fait, et c'est ce qui fait sans doute le charme de ces métiers-là, c'est qu'on sait pas
de
tout à fait.
Des mérites,
on sait pas tout à fait ce qu'on va faire le matin en arrivant. On sait ce qu'on a envie de faire, on sait ce qu'on imagine faire, puis en rentrant le soir, on se dit qu'on n'a pas fait tout à fait ce qu'on pensait.
Merci Thomas, on va faire une nouvelle pause avant de vous retrouver. Cette fois, on écoute Marc Ribot et on se retrouve après. La chanson s'appelle, alors attention à mon anglais, Ain't Gonna Let Them Turn Us Around. C'est tiré d'un très bel album qui vient de sortir qui s'appelle Songs of Resistance. I don't own the road on which I'm walking. I'm going walking anyhow. Bags all packed, know I'm bound for glory. I ain't
them turn me around. Once upon a time, somebody told me through this world a soul must walk alone. But I do believe I'm not the only one who says I ain't gonna let them turn me. As I walk this land of sudden beauty, I hear the voices of such angry men. But my eyes been on the prize for so long now. Ain't gonna let them turn. Ain't gonna let them turn. This old song, it ain't so complicated. Pick a brother up if he falls down. And if our sister's sick, well then she needs a health plan, don't she? 'Cause I ain't gonna let them turn me around.
Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8, c'est la Fabrique Politique. Aujourd'hui, on parle du fonctionnement des mairies en France avec Thomas Royer, directeur général des services de la ville du Touvet. On a évoqué les élus, on a évoqué les services. Je voudrais évoquer avec vous la place maintenant des citoyens dans le fonctionnement du mairie. Mais avant ça, un petit détour vers une autre fonction méconnue que vous avez évoquée rapidement tout à l'heure, Thomas, qui est celle du cabinet. Alors, on imagine qu'il n'y en a pas dans toutes les communes, mais quand ils existent, c'est quoi ces fameux cabinets du maire? Il y a qui dedans? À quoi ça sert?
C'est assez français.
Ah bon?
Bah, ça existe dans d'autres pays, mais pas sous les mêmes formes.
D'accord.
Le mot cabinet vient du cabinet du roi, donc pour montrer que là aussi, on n'a pas forcément voté grand-chose. Pas dans toutes les communes, en effet. Généralement, ça commence vers 10 000 habitants que le maire a un collaborateur de cabinet. Donc, en dessous de 20 000 habitants, c'est un collaborateur. Ça peut monter à 10 pour les communes de plus de 355 000 habitants. À Grenoble, c'est 5. Le rôle du cabinet, donc, c'est le cabinet du maire. Donc, c'est les collaborateurs les plus proches du maire.
Pas des élus, c'est du maire.
Voilà. Les textes, c'est du maire. Après, dans certains cas, et je l'évoquais tout à l'heure, lorsqu'il y a besoin de veiller à des arbitrages, à préparation de décisions, évidemment, le lien avec les élus est important. Lorsque le maire doit être représenté, le cabinet a aussi un rôle auprès des principaux adjoints au maire pour pouvoir préparer les discours, informer, donner des éléments de langage éventuellement. Dans une grande collectivité, département, région, grande ville, métropole, la journée du maire, pour le coup, c'est là aussi, ou du président d'exécutif, c'est là aussi de nombreux rendez-vous qui peuvent passer en 5 minutes, entre guillemets, ou en demi-journée, de la culture au sport, à l'hébergement d'urgence. Il y a besoin que dans son entourage, il y ait des gens pour préparer les dossiers, préparer les réunions, pour gagner du temps, et que le temps avec le maire soit le plus plus efficace possible, le plus utile et la prise de décision la plus rapide. Donc c'est voilà, un rôle de super secrétariat sur plein de sujets, gestion de l'agenda, gestion des priorités politiques, relations presse, communication, suivi des crises ou des dossiers qui sont ceux de l'urgence du moment. C'est un rôle parfois un peu ingrat parce que pour le coup on traite un dossier à un moment très instantané, là où ça va pas bien généralement. Quand les dossiers vont bien, le cabinet n'en entend pas parler, il ne voit pas passer les dossiers. Il est là pour régler, entre guillemets, les difficultés auxquelles on peut être confronté. Et puis, il a un rôle de conseil politique auprès du maire sur les décisions qui sont à prendre. Il y a un rôle important de complémentarité par rapport au service.
Ben oui, j'imagine bien qu'il y a une interaction à trouver qui n'est pas toujours évidente. Mais...
C'est l'objectif en tout cas. Ouais. C'est le rôle du cabinet d'alerter les services sur une tension qui peut apparaître sur un sujet ou entre élus. Et du coup, les services vont être vigilants sur leur positionnement pour ne pas accentuer potentiellement la tension.
En tout cas, c'est un peu de la diplomatie entre élus et services. C'est ça. Mettre de l'huile dans les rouages. Quoi.
Il y a une situation qui peut... Voilà, une pétition qui arrive, par exemple, à la mairie, les services n'ont pas forcément anticipé la difficulté, les élus non plus. Il y a du coup à regarder comment collectivement le dossier est pris en charge pour régler les difficultés. Donc il y a un rôle de complémentarité, ça permet aussi d'apporter un autre regard. Et puis ça fait aussi remonter aux élus dans l'autre sens, des remarques des services, en disant votre projet il est super, sauf qu'il y a un truc que vous avez oublié. Et du coup il faut que vous repreniez un peu le temps de la réflexion au niveau politique pour stabiliser la décision et faire en sorte qu'ensuite les services puissent réellement la mettre en œuvre et l'appliquer.
Et alors dans ce cabinet c'est des fonctionnaires ?
Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, ils sont en disponibilité en détachement, d'accord. Donc ils sortent entre guillemets c'est pas de leur statut. Général. C'est assez rare. Okay. C'est assez rare. Et on ne peut pas être en cabinet en étant en disponibilité de la collectivité où on travaillait déjà avant.
Exemple, d'accord, mais alors ça veut dire que si ce n'est pas des fonctionnaires, ça veut dire que c'est plutôt quoi ? Des gens qui viennent du parti politique auquel appartient le maire, par exemple ?
Généralement, c'est souvent le cas. Ou ouais, d'une proximité personnelle qui pouvait exister préalablement.
Des gens de confiance.
Des gens de confiance. Ou alors quelqu'un qui... voilà, on a l'université. Imaginons un chercheur en urbanisme ou en développement durable. Il y a un projet, une volonté politique forte d'accentuer l'action de la collectivité en la matière. Le maire peut chercher une compétence extérieure en disant, voilà, est-ce que vous accepteriez une expertise, que vous accepteriez d'être le monsieur développement durable ou la madame développement durable au sein de mon équipe, au sein de mon cabinet, en lien avec du coup les services qui interviennent ça peut être aussi du contenu ou un agent, quelqu'un qui a une grande connaissance du milieu culturel et qui décide d'être le monsieur ou la madame culture d'un maire qui fait de la culture une priorité de son mandat. D'accord.
Alors les habitants, parlons-en. Alors on imagine l'image d'Épinal, le maire au marché qui serre des mains, bon. Mais dans la vraie vie de tous les jours, les liens des élus avec la population, ça ressemble à quoi ?
Je l'ai évoqué tout à l'heure, la commune est le premier échelon de proximité. C'est le premier échelon au service des habitants. Et les politiques mises en œuvre, elles visent bien à viser une réponse aux attentes des habitants. Donc il y a l'image d'Épinal du maire sur le marché pendant la campagne. Il y a l'image un peu moins d'Épinal du maire qui achète son journal, son paquet de cigarettes éventuellement, son pain ou qui fait ses courses, parce qu'il faut aussi que ces impératifs de la vie quotidienne soient réalisés par les uns comme par les autres. Donc les interpellations, elles parviennent dans ce cadre-là, sur une forme de proximité naturelle, quotidienne, qui n'est pas organisée. L'occasion fait le larron, quoi. Voilà. Ou le maire sur une manifestation qui se fait interpeller par le parent d'élève parce qu'il y a un agent qui est absent depuis 3 semaines, qui n'a pas été remplacé et que, oups, je ne le savais pas. On me l'a pas dit, mais je l'apprends à cette occasion. D'où l'intérêt pour les services de ne pas gâcher grand-chose aux élus, parce que généralement, ils apprennent tout par les habitants. Il vaut mieux une forme de complicité, de complémentarité en la matière. Après, du coup, les habitants, ils sont aussi ceux qui viennent à la mairie faire remonter leurs doléances, ceux qui écrivent.
C'est-à-dire qu'ils prennent des rendez-vous.
Il y a des rendez-vous qui sont organisés ou qui sont sollicités pour dire on a un souci, les travaux dans la rue ne sont pas faits dans les délais qui étaient prévus, il y a un bâtiment qui fuit, il y a un voisin qui incommode. Voilà, on attend du maire qu'il ou qu'elle apporte des réponses.
Et alors, si on est là-dessus, effectivement, sur cette capacité d'interpellation, on se demande un peu comment ça marche. C'est-à-dire, comment on fait pour avoir de l'influence ? Est-ce qu'il y a des lobbies ? Est-ce que les maires sont, influencés, influençables, pris dans des circuits d'influence ? Ou c'est tellement dispersé que ça se dilue ? Enfin, est-ce que vous avez ressenti ça, vous, à des moments de votre carrière ?
Lobby, je dirais pas. Il y a un élément, c'est que la vie associative ou les collectifs créés, généralement les collectifs c'est créé en réponse à un projet communal qui n'est pas accepté. Ils ont évidemment plus de poids qu'un individu tout seul qui manifeste son mécontentement. Donc l'élu est plus attentif aux revendications portées par un grand nombre de personnes. Après, il y a des instances d'échange qui sont régulières et récurrentes. Les conseils d'école, par exemple, ou les conseils de crèche, sont les unions de quartier dans d'autres circonstances, sont des instances, des temps d'échange où les temps d'échange sont organisés. Voilà, le conseil d'école, il y en a un par trimestre. Les élus, ils n'y vont pas la fleur au fusil en se disant « tout va bien, je vais apprendre ce qui s'est passé pendant les 3 mois qui venaient s'écouler ». Donc il y a des échanges avec les parents d'élèves de façon plus régulière que ça et plus permanente pour justement permettre de faire remonter d'un côté les attentes, de l'autre l'information, les réponses à apporter ou les évolutions d'organisation qui sont mises en place.
Et si, admettons, moi je suis citoyen d'une ville, j'ai envie de m'investir, de faire quelque chose pour ma commune, qui soit pas juste aller gueuler un coup contre un truc qui me plaît pas, y a des possibilités, comment je peux faire? Est-ce que j'ai juste à attendre la prochaine élection municipale ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour un citoyen, une citoyenne de s'investir?
C'est une question compliquée, qui quelque part appelle à la modestie du côté des élus, mais aussi des citoyens. Parce qu'encore une fois, le principe de l'action publique, c'est de viser l'intérêt général et l'intérêt collectif. Mmh. Alors évidemment, dans une collectivité où il y a une couleur politique, on a une vision particulière de ce qu'appelle l'intérêt général et l'intérêt collectif. On met derrière du contenu idéologique ou des priorités politiques qui sont pas forcément partagées par tous. Après, sur la construction d'une école, quand il y a un déficit de place de classe, il n'y a pas de discussion possible, il faut y aller. Je l'ai évoqué, l'idée brillante d'un homme seul ou d'une femme seule, il faudrait qu'elle arrive au bon moment, à un moment d'écoute très attentif, très particulière, qu'elle permette d'être en quelque part en réaction à une réflexion que les élus ou que le maire a déjà enclenchée pour se dire... On n'est que deux à y penser, mais on va y aller parce que j'y crois et que mon rôle de maire, c'est d'anticiper, d'avoir une vision pour le territoire. Quand on est face à un collectif de parents d'élèves, d'habitants d'un quartier, d'associatifs qui font remonter, par exemple, un exemple tout bête, un problème de qualité de son dans une salle pour la pratique de la musique ou de chauffage dans un bâtiment communal, forcément, on se fait davantage entendre. Donc,
passer par les corps intermédiaires.
Voilà, quelque part, effectivement, la vie associative est un moyen assez efficace de pouvoir se faire entendre des collectivités. Après, il y a une autre réalité qui se développe depuis la fin des années 90, c'est la démocratie participative. Ouais. C'est la volonté, effectivement, de faire en sorte que davantage, le plus de monde possible s'intéresse à l'aménagement ou à la vie de la collectivité. La semaine dernière, à Grenoble, il y a eu le vote sur les budgets participatifs. C'est un excellent exemple d'une capacité collective à prendre une décision sur l'aménagement de son quartier, de son environnement. Voilà, c'est des habitants qui portent des projets, qui les font valoir auprès de la commune, auprès de la mairie. Il y a une pré-instruction qui se fait pour vérifier la faisabilité, puis ensuite c'est soumis au vote des habitants. Et voilà, je trouve que c'est un moyen intéressant et intelligent d'associer les gens à l'aménagement de la commune.
Alors du coup, ça donne un effet un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un certain côté, on a le sentiment, ou même les chiffres le montrent, qu'il y a une forme de désintérêt d'une grande partie de la population pour la chose politique, l'abstention qui ne cesse de s'accroître, et puis la méfiance, la défiance qui s'étale à longueur de réseaux sociaux, et de l'autre, ce mouvement-là dont vous parlez, de démocratie directe ou de démocratie participative, vous qui êtes dans cet univers des mairies depuis un moment, vous avez l'impression qu'il y a une des deux tendances qui est en train de l'emporter ou que que l'une ne compense pas complètement l'autre, enfin, comment vous voyez les choses évoluer dans cette espèce de contradiction?
Je suis malheureusement assez pessimiste sur le sujet.
Ah oui.
Trop souvent, entre guillemets, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de modestie. Il ne faut pas imaginer qu'un maire convaincu du bien fondé de sa décision va renoncer à son projet parce qu'il y aura une mobilisation importante. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément sain. Parce que les gens qui s'opposent sont généralement des gens qui ont envie de se mobiliser, mais ils ne représentent pas forcément l'entièreté de la population. Et puis, il y a des décisions qui sont prises, qui, au moment où elles sont prises, sont très impopulaires ou très compliquées à assumer et qui, au final, emportent l'adhésion. Moi, j'étais à Grenoble quand la ligne C de tramway s'est construite sur le Grand Boulevard. Ça a été un chantier compliqué. Ça a été un sujet d'opposition politique très forte, d'instrumentalisation d'une partie de la population, de pétitions, de bouchons organisés pour empêcher les travaux. Je ne pense pas que grand monde aujourd'hui imagine à quel point ça a pu être compliqué de faire cette ligne de tramway. toujours à Grenoble. On a réussi l'exploit à l'époque d'avoir contre nous pas mal d'habitants parce qu'on voulait faire une crèche. Je ne sais pas qui peut être contre la construction d'une crèche, mais nous, on a réussi à en trouver des gens contre la crèche. Donc, ça ne rend pas les choses toujours aussi simples que ça, du côté des élus comme du côté des habitants. Il ne faut pas appeler au grand soir sur la capacité à l'action des habitants, parce que très vite, les gens s'épuisent.
Mais alors, comment on fait pour essayer de contrer cette tendance?
Là où je suis un peu moins pessimiste, c'est que je me dis que si on veut faire ça de façon efficiente, il faut le faire par projet. Il ne faut pas considérer qu'ad vitam aeternam ou en permanence, il y a des sujets qui... sur tout sujet, on peut concerter, on peut débattre, on peut avancer. Ce n'est pas vrai. Il y a des sujets qui ne se prêtent pas au débat ou à la concertation. L'élaboration d'un budget, il n'y a pas une hypothèse A, une hypothèse B, une hypothèse C. Il y a une réalité financière de la collectivité, il y a des baisses de dotation. On peut effectivement décider que le parc bidule est prioritaire par rapport au parc machin. Mais on ne va pas faire 20 parcs quand on peut en faire que 3 ou 4. Pareil pour les classes d'école, quand on peut en financer 40, on ne peut pas en financer 60. Donc voilà, il y a des arbitrages comme ceux-là sur lesquels il n'y a pas tant de marge que ça. Mmh. Donc moi, je trouve que là où il y a des marges de progression côté collectivité et côté habitant, c'est sur dynamique de projet.
C'est ça qui peut ramener...
Voilà, c'est ça qui peut effectivement ramener des gens à croire à l'action publique.
Et à croire à une action publique, je dirais, constructive, pas qu'une action... d'interpellation ou de contrer des choses.
Mais il faut que du coup, tu aies des habitants, et je suis moi aussi habitant, on mesure à quel point c'est exigeant, à quel point ça prend du temps, de l'énergie. C'est pas effectivement, vous avez évoqué le terme, aller gueuler contre un projet. Si on veut aller gueuler contre un projet, c'est facile. Si on veut ensuite, si la mairie dit « Ok, très bien, mon projet est pourri, j'en change, mais on va le construire ensemble », tout d'un coup, les 1500 personnes qui auront, je prends un exemple, enfin voilà, ce chiffre-là au hasard, qui auront signé en disant ce projet, il ne nous va pas, quand on va dire, OK, on se met autour de la table, on sera plus 1500. On sera peut-être au début 100, puis 50, puis 20, puis à la fin, on sera 15. Et il y aura à nouveau, après l'élaboration de ce projet, 1000 personnes qui diront, mais c'est pourri votre truc. Parce que quand vous étiez là pour le construire, ben non, moi j'ai autre chose à faire, et c'est légitime. Donc il faut aussi considérer que si on veut que les élus entendent davantage, il faut s'investir et s'impliquer vraiment dans la durée. Donc, ce qui est compliqué parce qu'on a tous des vies par ailleurs.
Bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut d'une certaine manière y aller modestement, mais y aller, c'est-à-dire ne pas lâcher ça, ne pas lâcher cette voie du projet et essayer à tout prix, au moins par là, de combler cette espèce de fossé effrayant qui semble se creuser entre les citoyens et la politique. Bah, merci beaucoup, merci. On essaye, nous, modestement, de contribuer à ça en expliquant un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Merci Thomas Royer.
Merci à vous.
Et puis pour nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour notre chronique Pendant ce temps-là à Veracruz, après une dernière pause musicale. Cette fois, c'est Girls in Hawaii avec la chanson Mrs.
Weirdly
Vous êtes dans la Fabrique politique sur Radio Campus 90.8. C'est l'heure de la chronique pendant ce temps à Veracruz. Une chronique qui nous emmène à Saillant, une petite ville pas très loin de Grenoble. C'est un reportage que j'ai trouvé sur Reporter qui date de 2016 et qui illustre bien, je trouve, la discussion qu'on vient d'avoir avec Thomas Royer. Je vous lis cet article. L'eau vive descend droit des montagnes. Assise au bord de la Drôme, Mireille se souvient de la rude bataille face au mépris des édiles. Le maire nous disait « C'est moi qui ai été élu, c'est moi qui décide. » Et on lui a prouvé le contraire, sourit-elle. Dans son dos, le massif des Trois Becs culmine à 1500 mètres, encerclé par la brune. Mireille a été parmi les premiers à se mobiliser contre le supermarché en 2010. « On voulait garder le cœur de village vivant, raconte-t-elle. À Saillant, où il y a 1240 habitants, on compte entre les ruelles étroites, deux boulangeries, une charcuterie, un magasin bio, des bars. Nous avons organisé une veille citoyenne et des manifestations pour bloquer la départementale. Une pétition qui recueille plus de 800 signatures. Devant la fronde, les enseignes Casino, Intermarché abandonnent le projet aux grandes dames du maire. L'énergie qui se dégage donne des ailes et les habitants se prennent à rêver d'une autre politique. Le règne des mâles blancs dominants, ça suffit, disent-ils. Des réunions publiques sont organisées à l'approche des municipales de 2014, avec un succès immédiat et une formule détonnante, pas de programme, pas de candidat, la liste, c'est vous. Plus d'une centaine de personnes se séparent en 7 groupes et bûchent sur l'avenir du village. Au début, on ne connaissait rien à la démocratie participative. Nous ne sommes pas partis de la théorie, mais de considérations pratiques, raconte Sabine, âgée de 36 ans. 3 idées fortes rassemblent le groupe d'habitants, la transparence, l'accès de tous à l'information, la collégialité au sein de l'équipe municipale et la participation des citoyens à la gestion de la commune. 3 semaines avant les élections, le groupe nomme une tête de liste. On a essayé de tenir jusqu'au bout pour ne pas avoir une personne désignée. À la réunion ce jour-là, Vincent est absent. On ne le prévient par mail qu'il a été choisi. La liste souhaite désacraliser la fonction d'élu. Vincent le dit en toute simplicité, je n'ai pas le costume et je ne souhaite pas me travestir. Il ne parle pas en acronyme, ni ne gonfle torse lorsqu'il fait le tour du marché. Le soir des élections, en mars 2014, la victoire est écrasante. 57% des électeurs votent pour la liste Autrement pour Saillant, tous ensemble, avec un taux de participation record de 80%. François Pégon, le maire sortant, ravale sa cravate. Vincent, dans la salle du conseil municipal, nous dit « Aujourd'hui, je suis assis sur le trône, mais peut-être qu'un jour, on le brûlera sur la place publique. » Un nouveau vent souffle sur Saillant. La mairie est comme une ruche. Christian, un habitant, témoigne. « Je vais à la mairie comme je vais chez moi. Je ne dis pas « Monsieur le maire, la porte est ouverte. » La mairie a été rebaptisée la maison commune. Des agents techniques, une dizaine de personnes, on le tournit. Dans des villages de cette taille, normalement, on voit les conseillers municipaux 2 fois par an. Ici, on se croise tous les jours. » Originaire de Lyon, Fernand s'était déjà présenté à des élections municipales. Une campagne sans saveur, se souvient-il, où l'on ne se contentait de suivre le maire. À Saillant, son expérience est toute différente. Les gens n'ont pas voté pour des personnes, mais pour des contenus. Ils ont validé une méthode de gouvernance. L'équipe ne veut pas seulement solliciter les habitants, elle souhaite co-gérer avec eux la commune. 2 jeudis par mois, l'équipe municipale organise un comité de pilotage public, une réunion de travail ouverte aux habitants et avec l'ensemble des élus. Les 14 élus fonctionnent en binôme et se partagent des responsabilités. Les indemnités de fonction ont été réparties entre tous. La nouvelle municipalité renverse le langage de l'oligarchie. Notre démarche repose sur l'expertise d'usage des habitants. Chacun est expert de sa rue, de son village. Impliqués dans la vie de la cité, les Saillançons se responsabilisent comme par un effet de miroir. Des élus admettent que les décisions ne leur appartiennent plus. L'extinction de l'éclairage public, par exemple, la nuit, vient d'être mise en place. Les habitants ont conçu une matrice avec des horaires différents selon les saisons, les jours et les quartiers. Le prestataire n'avait jamais vu ça. Dans les débats, les préoccupations environnementales sont omniprésentes, les préoccupations de long terme. La démocratie participative reste cependant un sport de combat, les élus perdent leur souffle et ça devient parfois difficile, ils croulent sous les mails, enchaînent les réunions, s'épuisent aussi à force d'être sollicités par les uns et les autres. Et puis peu à peu, l'équipe apprend les jeux d'influence, les rapports de force. Vincent et l'équipe municipale devront reprendre leur bâton de pèlerin, quitte à serrer des paluches au congrès des maires. On ne peut pas faire de la démocratie participative seulement dans un seul village. Alors du coup, Saillant cherche à essaimer, à être une expérience reproductible, malléable, adaptable, inspirée d'autres villes, d'autres villages, pour faire vivre la démocratie participative. Certains habitants même s'agacent. Un vigneron nous dit « Notre village est folklorisé, on se retrouve comme une bête de foire. Les médias ont la manie de tout transformer en spectacle. Ils font la passe sur ce qui est difficile. Il faut parler du fonctionnement juridique, du fonctionnement technique pour que les gens s'approprient la démarche et se demandent « Qu'est-ce que je peux faire chez moi ?» Voilà, une expérience singulière, à Saillant, dont je voulais vous faire part, qui illustre comment on peut faire de la politique en impliquant les citoyens. Un grand merci encore à Thomas Royer. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur le site de Radio Campus pour retrouver le podcast et toutes les émissions de la radio. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Fabrique Politique.